Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous, et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pour évoquer avec elle les titres à paraître à la une de cette nouvelle édition de ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence, on va dire, avec une petite ritournelle, avec le dossier de La Marseillaise sur la bataille des retraites.
Oui, oui, tout à fait. Alors, nous sommes toujours sur cet enjeu majeur de la bataille des retraites,
oui. Hein,
puisque, alors, nous faisons un dossier à nouveau, donc, qui paraît ce vendredi 2 juin, parce qu'il va y avoir deux rendez-vous très importants la semaine prochaine, le 6 juin, avec la nouvelle journée de grève et de manifestation à l'appel de l'intersyndicale contre la retraite à 64 ans,
oui.
Et le 8 juin, l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi d'abrogation de la réforme Macron. Voilà, donc nous donnons beaucoup de détails sur ces enjeux-là, sachant que c'est une niche parlementaire du groupe Liot.
Liot, ouais.
C'est une proposition de loi transpartisane et les groupes de soutien à la majorité relative, les groupes de la majorité relative d'Emmanuel Macron font tout pour que le vote n'ait pas lieu.
Et, oui.
Et c'est ça que nous expliquons dans le journal de vendredi.
À lire aussi dans La Marseillaise le scandale dans les EHPAD, et à cause de ce scandale, l'Agence régionale de santé d'Occitanie va muscler les contrôles, ce qui est bien.
Exactement. Alors, c'est vrai que l'Agence régionale de santé d'Occitanie fait un petit peu son mea culpa en disant que leur contrôle n'était pas clairement suffisant.
Hein, oui.
Et c'est l'affaire Orpea, donc, l'a prouvé. Donc, face à ce scandale, et pour pas que ça s'installe et que ça se reproduise surtout, et que ça se produise, l'ARS va musquer les contrôles. Et d'ici la fin de l'année 2024, l'ensemble des 823 EHPAD des 823 EHPAD de la région seront inspectés. Donc nous expliquons dans le journal pourquoi il y a ces contrôles et comment l'ARS va procéder.
Autre sujet aussi à lire dans La Marseillaise de ce vendredi, un sujet sur la préservation de la ressource en eau avec l'action de l'Agence locale de l'énergie.
Oui, alors nous avions déjà consacré un dossier sur la préservation de la ressource en eau, et là évidemment c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur vu l'état de la sécheresse, et donc nous avons fait un article sur l'action de l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, qui accompagne 19 communes de la métropole de Montpellier pour qu'elles aient un usage raisonnable et raisonné de l'eau. Et on explique dans cet article que les premiers résultats des efforts sont assez encourageants.
Ouais. Allez, le retour de l'ennemi public numéro un, le moustique-tigre.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que on peut plaisanter, mais c'est une véritable, c'est un véritable souci de santé publique aussi. Hein. C'est voilà. Et donc il y a un projet de recherche qui est lancé à Murviel-les-Montpellier,
oui.
Donc cette commune, afin de mieux connaître le comportement du moustique-tigre pour mieux le combattre.
D'accord.
Et notamment de mesurer les effets de la stérilisation. Nous expliquons tout ça avec les chercheurs qui sont donc à la tête de cette recherche et de cette expérimentation et qui va donc pouvoir après, selon les résultats, être proposé des solutions qui éviteront notamment d'utiliser des insecticides.
D'accord. Pour finir, côté culture, La Marseillaise propose un entretien avec le dessinateur Aurel qui expose en ce moment à Montpellier à Pierre Vive.
Oui, alors oui, c'est une exposition qui est intitulée « De la musique plein les yeux
ouais. »
parce que Aurel est un grand dessinateur, on le connaît, il a été d'ailleurs primé pour, il a eu reçu plusieurs prix pour un film d'animation qui s'appelle Joseph.
Ouais.
Et là, jusqu'au 23 juillet, je crois que c'est le 23 juillet exactement, dans cette galerie de Pierre Vive, il y a cette grande exposition. La galerie lui a donné carte blanche. Il est aussi musicien.
Mmh.
Et donc, ça permet d'offrir une rétrospective de 20 ans de carrière de ce dessinateur. Et il y aura donc une soirée spéciale vendredi avec un concert animé.
D'accord.
Et donc, nous donnons tout, évidemment, nous expliquons. Et puis surtout, nous donnons la parole à Aurel dans nos colonnes, hein, qui nous parle de sa carrière et de sa conception de l'art, quoi, et de son art à lui qui est de dessiner.
Mmh. Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, avec le dossier de la Marseillaise sur la bataille des retraites et avec notamment deux rendez-vous importants la semaine prochaine.
Oui, alors deux rendez-vous importants, c'est le mardi 6 juin, il y a une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la retraite à 64 ans. Donc c'est à l'appel de l'intersyndicale, c'est un appel qui avait été lancé il y a déjà plusieurs semaines, après la promulgation donc de la réforme des retraites, hein, du recul de l'âge de départ à 64 ans, en dépit évidemment il y a eu 13 journées nationales de mobilisation,
ouais.
de grève, de manifestation. À chaque fois, il y a eu entre 2 et 3 millions de personnes dans la rue.
Oui.
Il y a 7 Français sur 10, quand ils sont interrogés sur cette question, qui soutiennent l'action de l'intersyndicale et qui sont contre ce recul de l'âge de la retraite. Et malgré ce, le gouvernement Emmanuel Macron persiste et signe.
Oui.
Sauf que bon, la démocratie a la tête dure. Surtout les Français oui. sont très attachés à la démocratie. Et le gros problème, c'est que ce texte, qui est quand même majeur, n'a jamais été voté,
oui.
en fait, hein, puisque nous rappelons dans ce dossier tout l'usage des articles de la Constitution qui n'ont pas permis aux députés de voter.
Oui.
C'est pour ça que le deuxième rendez-vous important, c'est le 8 juin. Donc, le jeudi 8 juin, le groupe parlementaire LIOT a ce qu'on appelle une niche parlementaire. C'est-à-dire que ce jour-là, du matin jusqu'à minuit, il peut présenter des propositions de loi, celles qu'il veut. Et donc, l'IL a décidé de proposer l'abrogation de la réforme Macron.
Et oui.
Voilà, donc, et ça, il est soutenu bien évidemment par l'intersyndicale, puisque pourquoi le 6 juin, les manifestations du 6 juin, c'est pour appuyer aussi sur les députés et leur demander d'abroger, eux, par le vote, cette loi.
Oui.
Donc ça, c'est dans le communiqué national de l'intersyndicale. La difficulté là qui se pose, et c'est pas une difficulté, c'est on est sur une question de fond de démocratie.
Mmh.
On a donc dans ce dossier interrogé des députés de notre région, et notamment des députés de l'Hérault.
Oui.
Et nous avons interrogé Nathalie Auziol, donc qui est de la NUPES et qui siège au sein du groupe LFI.
Mmh.
Et elle siège aussi à la commission des affaires sociales, qui a examiné le texte mercredi,
oui.
31 mai, parce que en fait, la Macronie ne veut pas de ce vote.
Oui, il dit cette proposition de loi est anticonstitutionnelle. Ils sortent complètement de leur rôle, puisque...
Oui, alors ça, ce sont des arguments, les arguments alors que... C'est le Conseil constitutionnel qui peut dire si une proposition de loi ou un texte est constitutionnel ou anticonstitutionnel. Ça, mais il y a surtout aussi, ils ont sorti de la Constitution, puisqu'on a une Constitution de la Ve République, et nous l'expliquons aussi, dont certains articles peuvent être utilisés pour bâillonner le Parlement.
Ouais.
Or, le Parlement, il y a un article qu'on oublie souvent, c'est l'article 24 de la Constitution, c'est le Parlement qui vote la loi.
Et oui.
Voilà. Donc ça, c'est cet article-là, il n'est pas invoqué, sauf et bien évidemment par les députés qui veulent voter ce texte et plus largement qui veulent tenir leur rôle. Donc la Macronie va sortir en ce moment, s'appuie beaucoup sur l'article 40 de la Constitution pour dire qu'en fait c'est une proposition qui va coûter de l'argent. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est leur seul argument.
Oui.
Sauf que c'est, comme nous explique Nathalie Auziol dans nos colonnes, ils n'ont pas eu le même souci avec, par exemple, leur propre proposition de loi Bien Vieillir, qui crée une dépense de 8 milliards, qui a été gagée donc par une taxe sur le tabac. Et c'est exactement les arguments qui sont aussi avancés dans la proposition du groupe Liot. Et donc, ce que nous explique Nathalie Auziol dans la Marseillaise, c'est qu'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de constitutionnalité à géométrie variable dans la République française. Et surtout, elle nous dit qu'une démocratie en bonne santé est une démocratie où l'opposition et le débat peuvent avoir lieu.
Oui.
Or, on a une véritable difficulté avec notamment ce dossier majeur de la retraite, d'une absence de, comment dire, de débat, et surtout d'une absence de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron de tenir compte de l'expression de la démocratie politique à l'Assemblée et de tenir compte de la démocratie sociale exprimé par l'intersyndicale. On rappelle aussi que c'est l'ensemble des syndicats du pays qui sont vent debout.
Oui.
Il y a aussi une chose importante que j'aimerais rajouter, c'est que la journée du 6 juin, les syndicats, ils ne sont pas simplement sur la défensive, ils ne demandent pas simplement l'abrogation et le retrait de la réforme. Ils disent que le retrait est indispensable pour avancer enfin sur les préoccupations des travailleurs et des travailleuses. Voilà.
Mais c'est comme ça qu'il aurait fallu faire, parler de ça d'abord, avant de dire aux gens, vous allez travailler 2 ans de plus, sans leur dire, vous allez gagner plus. Quoi.
Voilà, exactement. Et donc, l'intersyndicale rappelle notamment que le salaire relève du partage des richesses.
Et,
et donc, voilà, c'est aussi cette journée pour ce que nous expliquent aussi les syndicalistes que nous interrogeons aussi et à qui on ouvre nos colonnes dans ce dossier. Vendredi. Par exemple, nous avons Bruno Révier, qui est le responsable, le secrétaire général de la CGT dans le Gard. Il nous explique qu'ils élargissent la bataille des retraites à d'autres thématiques, avec notamment l'intégration de la question des salaires. Et donc, il dit aussi qu'il faut entretenir, ce sont ses mots, cette braise sociale durant l'été afin d'avoir une rentrée importante. Et il rappelle, à dessein, que 1967 a été l'année où il y a eu le plus de grèves en France. Et l'année suivante, nous avons gagné la bataille et nous espérons donc reproduire ce schéma. Donc on est sur une bataille de fond qui ne va pas se terminer le 8 juin à minuit, quelle que soit l'issue du texte, de la proposition de loi présentée par le groupe Liot et soutenue par tous les groupes de gauche notamment et par l'intersyndicale qui appelle donc à les députés à abroger la réforme Macron des retraites.
Oui, et puis ce que vous dites, Françoise, on peut dire que c'est un retour de bâton pour le gouvernement, puisque maintenant les syndicats, veulent la retirer cette réforme, mais ils veulent plus maintenant.
Disons que c'est-à-dire que le problème, c'est que en étant intransigeant sur cette question des retraites, il y a une véritable paralysie de toutes les discussions possibles sur d'autres sujets majeurs. Donc, ça ne sera. Les syndicats ne tourneront pas la page, y compris les syndicats, ils sont vraiment unis. On pourrait dire les syndicats les plus réformistes, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que, que ça soit la CFDT, je peux rappeler quand même que l'intersyndicale, c'est CFDT, CGT, FO, CFE, CGC, la CFTC, l'UNSA, solidaire, la FSU, et les organisations de jeunesse, avec une particularité de l'intersyndicale qui se décline notamment dans tous les départements et dans l'Hérault. Il y a aussi, pour les jeunes, le syndicat de combat universitaire de Montpellier, qui est complètement intégré et il est complètement intégré à l'intersyndicale de l'Hérault, aux côtés des syndicats de salariés.
Affaire à suivre. Allez, deuxième sujet. Face au scandale dans les EHPAD, l'Agence régionale de santé, l'ARS d'Occitanie, va muscler les contrôles.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en Occitanie, c'est ce que nous expliquons dans cet article, il y a au total 823 maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes. C'est EHPAD, c'est établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. D'accord. C'est le sens de l'acronyme. Voilà, et l'ARS, c'est l'Agence régionale de la santé. Alors, pourquoi l'ARS s'intéresse aux EHPAD? Ben, tout simplement parce que l'ARS co-gère ces établissements avec les départements, avec les collectivités. Les collectivités, le département va être sur la question des locaux. Voilà. Et l'ARS, elle va être sur la question santé. Or, on sait depuis le scandale Orpea qui a été révélé par le travail d'un journaliste, la plupart, il y a de nombreux EHPAD qui choisissent de faire plutôt de l'argent que de prendre soin des personnes âgées.
Oui, et qui sont cotés en bourse, donc qui veulent revendre, redonner des dividendes à leurs actionnaires.
Donc l'Agence régionale de santé d'Occitanie a décidé que d'ici la fin de l'année 2024, l'ensemble de ces 823 EHPAD de la région, donc 45% sont publics, 34% sont privés et 21% privés lucratifs, c'est quand même important, 21% privés lucratifs, ils vont faire l'objet d'inspections qui seront plus ou moins poussées par les services de l'ARS. Est-ce que nous dit le directeur de l'ARS d'Occitanie, c'est que ces contrôles étaient clairement insuffisants. Et donc, comme l'a prouvé, nous dit-il, l'affaire Orpea.
C'est quand même fou que quand même cette personne dise ça, puisqu'il est au cœur quand même du sujet. Il faut encore un journaliste pour qu'il y ait une action derrière, en fait.
Ben, disons que, bon, on l'a montré, on va pas rappeler les grandes heures d'Albert Londres, mais si Albert Londres n'avait pas dénoncé les conditions, alors c'est pas du tout les conditions dans les bagnes, les bagnes auraient été fermées beaucoup plus tard.
Oui.
Donc il y a toujours eu alors, certains, on parle de quatrième pouvoir, mais enfin, le rôle d'utilité publique des journalistes, il est quand même historiquement connu. On ne va pas parler de l'affaire Dreyfus, puisque là, c'est par les journaux, notamment l'Aurore et le fameux texte d'Émile Zola, J'accuse, ça a aidé aussi à la révision du procès et à réhabiliter le capitaine Dreyfus qui avait été embastillé et déporté parce qu'il était juif. Voilà. Donc, il faut toujours ces enquêtes-là pour faire bouger les lignes, plus que bouger des lignes. Pour revenir sur ces contrôles, donc c'est Didier Jaffre, donc le directeur de l'ARS Occitanie. Donc, évidemment, pourquoi c'était pas fait ou mal fait? Il y a aussi les questions de moyens.
Oui.
Donc, il a annoncé donc le recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, de médecins, de pharmaciens, puisque inspecter un EHPAD, d'abord, il faut que ça soit inopiné, c'est-à-dire
parce qu'ils étaient prévenus, je crois, avant les EHPAD que
oui,
les
alors en contrôle. Ils peuvent être prévenus et puis certains ne le sont pas. D'ici la fin de l'année, c'est ce qu'on explique, il y aura 70 contrôles sur site et 400 sur pièce qui auront été menées. Mais on voit bien qu'au regard du nombre important d'établissements sur notre région, il va falloir muscler aussi les équipes. Donc c'est tout le but de de cette communication de l'Agence régionale de santé. Mmh. On a aussi une directrice de l'ARS qui est en charge de la qualité, qui s'appelle Véronique Gadi, qui oui. S'exprime dans nos colonnes et qui cache pas du tout que le scandale Orpea et notamment les mesures d'éloignement lors du Covid ont vraiment abîmé le lien de confiance entre les familles et les EHPAD. Oui. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant et surtout, c'est une question de société. Mmh. C'est-à-dire que l'Occitanie, il y a déjà 230 000 personnes, habitants, qui ont plus de 85 ans.
Eh oui.
Et on en aura, attention, 407 000 en 2040. Oui. Donc c'est demain.
Mais c'est bien ça le problème, Françoise, on peut dire. Les EHPAD étaient beaucoup en roue libre parce que même face aux colères des familles, on disait, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Et il y avait d'autres personnes qui arrivaient derrière et remplissaient les lits et les chambres, quoi.
Voilà. Et puis il y a besoin aussi que l'État mette vraiment les moyens et qu'il y ait une grande loi avec les moyens qui vont avec aussi, pas simplement voter pour se faire simplement il faut passer. Il faut aussi des décrets d'application et que ça suive, parce que il va falloir très vite construire, moderniser ces structures. Mmh. C'est un enjeu, comme on le disait, majeur. Oui. Qui concerne tout un chacun, parce que on va tous vieillir, il faut le souhaiter, il faut vieillir en bonne santé. C'est pour ça que je fais le lien, et je pense pas que ça soit mordre le trait que de faire le lien avec la réforme des retraites. Oui. C'est-à-dire que qui va abîmer quand même plus les gens.
Oui.
Tout se tient, je trouve, et c'est pour ça qu'on consacre d'ailleurs un article assez important et assez détaillé sur cette action que l'ARS entend mener, et évidemment on fera ce qu'on appelle notre droit de suite pour voir comment ça se passe.
Et espérons que ça donne des idées aussi aux PMI, parce qu'on peut constater des mêmes effets dans les crèches, et notamment je crois que le journaliste qui a fait cette enquête s'attaque aux crèches maintenant en ce moment.
Voilà, et oui, parce que c'est exactement le même système. Il y a une libéralisation de l'accueil des enfants. Il y a une loi qui avait été votée il y a quelques années pour libéraliser les crèches. Oui. Et certains y ont vu les moyens aussi de se faire de l'argent sur le dos, alors à toutes les extrémités de la vie, que ce soit les tout-petits ou personnes âgées. Donc, on va dire les plus fragiles d'entre nous. Il y a une question centrale. On ne peut pas, a priori, marchandiser l'accueil de la petite enfance et l'accueil des personnes âgées.
Et puis c'est un petit peu comment on traite nos enfants et nos âgés, c'est un petit peu le miroir de la société dans laquelle on vit.
Exactement, tout à fait.
Allez, direction un petit peu la préservation de l'eau tout de suite maintenant, Françoise, pour ce troisième sujet à lire dans la Marseillaise, avec l'action de l'Agence locale de l'énergie et du climat.
Oui, alors on sait très bien que l'enjeu de l'eau, il est aussi extrêmement important. On est dans un changement climatique qui se traduit par un réchauffement climatique et donc par de la sécheresse, et donc la ressource en eau est vraiment à préserver.
Oui.
Et pour cela, cette agence locale de l'énergie et du climat, ALEC, a décidé d'accompagner des communes vers un usage raisonné de l'eau, et on a des premiers résultats. Par exemple, à Juvignac, il y a eu un système de recherche automatique des fuites qui a été mis en place.
D'accord.
Donc ça, c'est très important, parce que la perte en eau générée par les fuites, c'est quelque chose qui est... j'ai plus des
chiffres en tête. C'est 20%, je crois.
Voilà, mais c'est énorme. Donc déjà, au niveau de Juvignac, il y a ce système de recherche avec l'aide de l'ALEC qui a été mis en place. On peut citer aussi à Prades-le-Lez, par exemple, qui a décidé de ne plus mettre de pelouse pour le terrain de foot, mais tout simplement une pelouse synthétique. Hein, c'est beaucoup moins gourmand en eau. Parce qu'il qu'il faut savoir que bon, ils avaient quand même, ils disaient que en 2020, par exemple, il y avait l'arrosage automatique qui était programmé, même quand il pleuvait. Donc voilà. Donc pareil, à Sabrègues, c'est une commune parmi les on va dire où les résultats sont vraiment très bons. Oui. Ils traquent les fuites grâce à un système de télé-relève qui va détecter la surconsommation d'eau. D'accord. Donc ça va permettre de réparer les fuites au plus vite et de savoir si un robinet est resté ouvert. Alors, ça peut sembler, comment dire, des petits gestes, mais c'est énorme. Oui. Parce que si c'est fait de façon systématique au niveau de beaucoup de toutes les communes, on va réussir à économiser. Donc, il y a d'autres innovations aussi qui sont imaginées par l'ALEC, hein, puisque on a Michael Gerber. Alors lui, ce monsieur, il s'occupe du pôle collectivité. D'accord. À l'ALEC. Donc il travaille directement avec les communes. Oui. Par exemple, parmi les innovations, c'est réussir à récupérer l'eau de pluie et les eaux usées. Oui. Donc c'est réutiliser en les traitant ces eaux grises. Oui. qui passent par la station d'épuration. Donc on est en France, hein, le pays qui recycle le moins ses eaux usées. Donc ça, il y a quand même tout un enjeu, puisque il y a encore de l'arrosage et du nettoyage de rues avec de l'eau potable.
Mais c'est ça.
Qui est complètement aberrant.
C'est ça.
Voilà. Donc ça permet déjà, nous qui on avait consacré la Marseillaise déjà un grand dossier sur la question de la préservation de la ressource en eau, et donc on revient régulièrement sur cette question, parce que c'est extrêmement important de donner à voir et de faire connaître les actions mises en place. Mmh. Et surtout la nécessité d'agir d'un point de vue collectif. On voit bien que là, c'est encore le service public qui est indispensable pour mener ces actions.
Mmh. On les trouve aussi dans les petites flaques d'eau, les moustiques tigres, l'ennemi numéro un.
Exactement, c'est une très bonne transition, parce que déjà, premier geste pour le moustique tigre, ne pas laisser de l'eau stagner dans les pots de fleurs. Voilà. Mais cela dit, ça ne suffit pas.
Et, oui.
Et c'est bien pour ça que nous mettons l'accent donc sur un projet de recherche qui vise à vraiment à mieux connaître le moustique tigre. Et ce projet de recherche est lancé dans une commune de l'Hérault, Murviel-lès-Montpellier. Mmh. Les chercheurs nous expliquent, c'est Frédéric Simard, qui est chercheur à l'IRD.
Oui, l'Institut de Recherche et de Développement.
Voilà, l'Institut et Développement qui pilote cette expérimentation. Mm-hmm. C'est donc l'objectif, c'est de bien connaître le moustique tigre en Occitanie, chez nous, parce qu'il a des habitudes de vie qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a étudiées, par exemple, dit-il, dans la zone intertropicale.
Et
on
oui.
a notre propre moustique tigre estampillé Occitanie.
D'accord.
Il s'agit donc pour lui d'aller le débusquer, alors il est tout petit, là où il se cache quand il ne pique pas, ce qui permettra de générer des données utiles pour la séance, utiles pour ceux qui sont en charge de la lutte contre le moustique tigre, et donc il pourra mieux orienter ses interventions, qui sont aussi déclenchées par l'Agence régionale de la santé, parce que, et bien évidemment, le moustique tigre, pourquoi il faut le combattre? Parce que non seulement c'est désagréable, parce que quand on est piqué, ça gratte,
mais
il est aussi vecteur de la dengue et du chikungunya. Et cette étude va permettre de développer des méthodes de lutte innovantes qui vont être adaptées au territoire. Alors, ce qui va se passer, dès ce mois-ci, là, le mois de juin, et pendant toute la saison où il prolifère le plus, les chercheurs qui s'occupent de cette étude dans cette commune de Murviel, les Montpellier, vont capturer les moustiques dans la végétation. chez les habitants volontaires, dans l'espace public. Ils ont identifié 60 sites à peu près. Mmh. Et donc, ils vont échantillonner ces sites à raison de toutes les deux semaines, à ouais. différentes heures de jour ou de la nuit, et donc pour pouvoir donc bien étudier le comportement de ces leur particularité et leur comportement. Mmh. Alors, ils vont ce dispositif qui est quand même vraiment c'est de la dentelle. Hein, oui. Voilà, 60 sites sur une commune, c'est aller à la chasse aux moustiques est vraiment c'est vraiment de la recherche pointue. Ça permettra aussi, c'est intéressant, d'apporter des informations sur l'utilisation d'une technique qui s'appelle l'insecte stérile. Ouais. Alors, ça a été développé par l'IRD à La Réunion. Mm-hmm. Il y a une start-up montpelliéraine qui s'appelle Terratis qui travaille aussi. Ouais. Alors, en fait, ça consiste à élever des mâles. Donc, on élève des mâles, hein, oui. c'est du moustique domestique, hein, qui seront stérilisés. Mm-hmm. Avant, ils seront relâchés dans l'environnement. Le but, c'est qu'ils s'accouplent avec des femelles. Ouais. Et donc, que les œufs pondus n'éclosent pas, mm-hmm. Puisqu'ils ne seront pas fertilisés. Et donc, si on travaille sur cette technique-là, on peut arriver, nous explique Pierre Simard, à diminuer, voire à éliminer les populations de moustiques ouais. dans un endroit donné et sans utiliser les insecticides.
Mais ça veut dire voilà. qu'il va y avoir un effet de seuil. Il faut relâcher plus de moustiques que de moustiques qui sont dans la nature.
Oui, non, mais c'est pour ça que c'est quand même s'attaquer aux moustiques tigres, c'est quand même pas
un petit
facile. Oui. Et c'est pour ça, et c'est intéressant de voir à quel point les chercheurs aussi sont complètement engagés dans cette bataille-là, parce mmh. que il y a des questions de santé publique et puis il ouais. y a des questions économiques, puisque nous sommes une région très touristique et il y a parfois des difficultés. On pense au Gros du Roi oui. l'an passé, oui. où il y a eu une attaque en règle de moustiques qui a fait fuir oui. Certains touristes. Et donc, il a fallu repasser de l'insecticide à grande échelle oui. pour assurer une vie tout court aux habitants et à ceux qui viennent sur la commune pour passer leurs vacances.
Mmh. On en vient presque à regretter nos bons vieux moustiques d'antan.
C'est ça, tout à fait.
Allez, pour finir, Françoise, un peu de culture. La Marseillaise propose un entretien avec le dessinateur Aurel qui expose en ce moment à Pierre-Vive.
Oui, alors évidemment, la Marseillaise, on aime beaucoup Aurel. C'est un grand dessinateur. Hein. Il a beaucoup travaillé dans l'actualité pour le dessin de presse, mmh. notamment. Et puis, il a réalisé ce superbe film, ce long métrage d'animation qui s'appelle Joseph, donc qui aborde en fait le destin d'un réfugié espagnol hein, ouais. qui a fait la guerre d'Espagne, hein, qui a eu Ce film d'animation a eu énormément de prix, notamment le César du meilleur long métrage d'animation en mmh. 2021. Mais Aurel a plusieurs cordes à son arc. Hein. C'est aussi un musicien. Et c'est pour ça cette exposition qui donc court jusqu'au 29 juillet mmh. à la galerie Pierre-Vive à Montpellier s'intitule De la musique plein les yeux. Oui. Parce que Aurel est aussi musicien. Donc c'est une sorte aussi de rétrospective. Et dans cet entretien, il nous explique que la galerie Pierre-Vive lui a donné complètement carte blanche pour réaliser cette expo. Mmh. Au-delà de une rétrospective des œuvres, il avait aussi envie de montrer, nous dit-il, autre chose pour éviter d'être enfermé dans l'actualité. Hein. Ouais. Et donc pour lui, parler de la musique, c'était une évidence, puisque nous explique-t-il, il nous le dit, que c'est par la musique qu'il est arrivé au dessin.
D'accord.
Et pour lui, les deux sont complètement et étroitement liés. Donc c'est une interview quand même assez longue. Hein, oui. Donc j'invite les lecteurs à vraiment les auditeurs à aussi la découvrir. Hein. Ce qui est intéressant aussi, on peut encore s'inscrire ou aller prendre des places. C'est que ce vendredi 2 juin, il y a un concert. C'est un concert dessiné de jazz avec Aurel, donc, et le jazzman Renaud Garcia-Fons, qui va donc se produire à la galerie, accompagné d'une création d'Aurel. Je pense que c'est à découvrir. Oui. On donne tous les renseignements dans le journal et on est très content d'avoir Aurel dans la Marseillaise de ce 2 juin.
Mmh. On vous encourage vraiment aussi à Divergence, chers auditeurs, à vous rendre à cette expo parce que Aurel, c'est fantastique. Et puis le lieu aussi, Pierre Vive, est fantastique.
Tout à fait.
Tout est dit, Françoise ?
Oui, tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais on passerait 2-3 heures ensemble.
Donc on vous invite, chers auditeurs, à vous rendre dans tous vos bons kiosques à partir de ce vendredi pour découvrir plus encore dans la nouvelle version, dans la nouvelle édition pardon, de la Marseillaise, et à vous rendre sur le www.lamarseillaise.fr. Quant à nous, Françoise, on se donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine.
Absolument.
Très belle fin de semaine, Françoise.
Merci Bruno. Au revoir à tous et à bientôt.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.